France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, rendez-vous avec Charles-Élie Couture, artiste complet ou comme il aime dire, multiste, qui fait paraître ensemble un nouvel album et un recueil de textes en même temps qu'il présente à Sète une exposition. Retour dans un instant sur cet étonnant parcours jalonné par une jeunesse lorraine, un avion sans aile, une vingtaine de disques et beaucoup de navettes entre la France et l'Amérique. Charles-Élie Couture est ce matin mon invité. Quant à cet après-midi, voilà un petit conseil pour bien occuper votre 5 à 7.
De 5 à 7, dans mon sixième, je l'attends de 5 à 7.
Je vais chez lui simplement de 5 à 7 pour bavarder en prenant une tasse de thé.
De 5 à 7, lorsque je l'ai invité de 5 à 7,
je lui ai dit sans hésiter, c'est très gentil, mais oui, j'accepte, je serai là de 5 à 7.
On va s'installer sur le canapé et je lui volerai un petit baiser.
Il doit me montrer des cendriers comme on n'en voit pas dans les musées.
De 5 à 7, le cœur battant, je l'attends de 5 à 7.
Et dans un tout petit instant, nous serons seuls en tête à tête.
Dans mon sixième de 5 à 7.
Quelle aubaine!
C'est une veine.
Je suis certaine.
Elle ne tardera sûrement pas. De 5 à 7, je la vois déjà arriver de 5 à 7.
Avec une robe achetée de 5 à 7, 100 nouveaux francs, et qui me va divinement.
De 5 à 7, le temps est vraiment très long de 5 à 7.
Quand on attend et que l'on a des idées derrière la tête pour occuper ce 5 à 7. Il aura prévu tout ce qu'il faut, les petits fours, le jean et le porto.
Je vais mettre un disque de Sinatra, car je sais qu'elle aime bien sa voix. De 5 à 7,
ta-da-da.
Déjà 2 heures que j'attends de 5 à 7.
C'est souvent très imprudent, alors tant pis si je regrette, je n'irai pas de 5 à 7.
C'est bien fini pour aujourd'hui.
Il m'attendra, il m'en voudra.
Oui, mais demain, peut-être bien.
De 5 à 7, une chanson de 1960 avec les voix de Colette de Réal. Et puis vous l'avez reconnu, Marcel Amon, ce grand monsieur qui, à force de ne pas vieillir, nous donne l'impression d'être toujours jeune.
We'll be right back.
Voilà, ça c'était pour nous chauffer un peu Xavier Cugat et son grand orchestre dans Mama Inès en 1961.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps maintenant de retrouver mon invité, un invité qui, je vous l'ai dit, aime brasser tous les arts, musique, littérature, arts plastiques. Il y réussit d'ailleurs fort bien. Il y a réussi tout au long d'un parcours commencé à Nancy, poursuivi à Paris, prolongé en Amérique où il a vécu de longues années, avant de nous revenir aujourd'hui avec à la fois un album, une exposition, un livre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charles-Élie Couture.
D'arriver, je suis dans le jet lag, j'arrive pas à dormir sans blague. Sur un vélib un peu voilé, je vois le jour se lever, il est 5h30. J'ai pas sommeil, 5h30, même pas sommeil. Des grappes de clubbers foncent des zones à garde, after en after, et les limos noirs des Uber laissent tourner méchant leur compteur. Il est 6h, j'ai pas sommeil, il est 6h. Pas sommeil. Sur leur carton, les punks à chiens et réfugiés érythréens voudraient pouvoir y croire encore. En bord de canal, gare du Nord, il est 6h30, j'ai pas sommeil. 6h30, même pas sommeil. Se faire prendre en flingue, les street artistes finissent leur tag sur le périph en chantier. Grand manège vient de recommencer, il est 7h. J'ai pas sommeil, il est 7h, même pas sommeil. Ils ont annoncé grève du métro, alors certains s'y prennent plus tôt. Ça ralentit au maréchaux, ça bouchonnade dans le fer rochereau. Il est 7h30, j'ai pas sommeil, 7h30. Même pas sommeil. Elle se met en branle, la capitale s'évapore les brumes matinales. Et cette grande dame, la tour Eiffel, restera toujours aussi belle. Il est 8h, j'ai pas sommeil. Il est 8h, même pas sommeil. J'ai pas envie de dormir, non j'ai pas sommeil. Jour de pluie, jour de soleil, pour moi c'est pareil. J'aime la vie les yeux ouverts, la lumière qui m'émerveille. Même pas sommeil, 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 même pas sommeil.
Bonjour Charles-Élie.
Salut.
On pourrait dire que c'est un peu les impressions d'un Français de New York qui redécouvre Paris, chanson.
C'est que ça, parce qu'en fait l'inspiration m'est venue en atterrissant un jour avec le jet lag, ce que j'évoque. Il y avait dans le taxi qui jouait 5 heures Paris s'éveille.
Voilà, j'ai pensé à la chanson évidemment de Dutronc tout de suite.
Et puis j'écoutais, puis je trouvais que les images qui étaient de Lanzmann étaient bien vues pour l'époque, mais elles étaient un peu désuètes.
Elles correspondaient plus.
Voilà. Alors je me suis dit, je vais leur faire une sorte de clin d'œil avec le décalage.
C'est un peu moins doux que le Paris de Lanzmann. Hein.
C'est autre chose.
C'est autre chose. En tout cas, c'est une belle chanson. Et puisque vous nous faites le plaisir d'être ce matin sur France Musique, j'avais envie de vous demander, tiens, voilà une chanson de Charles-Élie Couture. Comment elle se fabrique, cette chanson? Comment elle vient? Alors, le texte d'abord un matin dans le taxi, et puis après...
En fait, j'ai dans la poche tout le temps des carnets. Et quand j'ai pas le carnet, je m'envoie moi-même des notes sur mon téléphone ou cellphone, mais on sait jamais
une chanson.
Oui, ouais. ça part toujours de rien. D'un côté j'ai des stocks de musique, de l'autre j'ai des stocks d'idées, voire même de chansons. Des chansons j'en ai au moins 500, écrit bien plus que je n'en chanterai jamais. Ouais. Mais Il y en a qui peuvent attendre longtemps. Par exemple, la première chanson de ce disque-là, qui s'appelle Les Chevaux Froids,
je l'ai commencé tout à l'heure d'ailleurs.
C'est une chanson importante que j'ai commencé à écrire à la fin des années 70, tu vois, au même période que Poème Rock. Et puis jamais la chanson avait trouvé sa place jusqu'à ce que ça me paraisse une évidence que ce soit maintenant.
Ça se fabrique aussi en studio dans le jeu avec les musiciens, les producteurs, etc.
Sur 23 disques, je peux te dire, j'en ai essayé plein de méthodes différentes. Ce qui marche le mieux, comme celui-là par exemple, c'est quand d'abord il faut se dire que pour faire un disque, il faut à peu près 2 ans et demi, à peu près le même temps que pour résoudre une équation, me disait un mathématicien. Mais le fait est que je suis très complice avec les musiciens, donc quand je trouve quelque chose qui me paraît abouti, j'essaie tout de suite avec eux comment ça peut donner, puis après ça mature, ça change, écrit, ça repasse par des... Disons, la différence entre un texte de chanson, par exemple, comme ceux de Même pas sommeil, ou ceux des poèmes inchantables, c'est que les chansons, je les réécris beaucoup. Je peux aller jusqu'à 15, 20 réécritures pour que le texte soit facile.
En tout cas, il y a une belle, j'ai envie de dire, une belle facture de studio. Je lisais dans une interview que le studio, vous vous mettez pas tant à l'aise que ça, vous préfériez le live.
Ah ouais.
Mais n'empêche que le studio, c'est aussi un plaisir pour faire les couleurs, pour construire vraiment, non?
Oui, mais en même temps, comme je te dis, sur les 23 albums, j'ai fait toutes sortes d'expériences. Oui, je suis arrivé des fois en studio avec rien, ou au contraire avec des trucs à peine ébauchés, des autres fois avec des maquettes, et puis d'essayer de recopier ce qu'on avait fait sur les maquettes en studio, ou au contraire se dire que les idées vont venir comme ça. Sauf que plus on a essayé des choses en studio qu'on a trouvées, plus les chansons ont mis du temps avant de maturer. C'est-à-dire que c'est pas le tout de trouver un bon gimmick. Après, il faut le pratiquer pour qu'il te rentre dans les mains et ainsi de suite.
Qu'il devienne vivant, quoi.
Voilà, c'est ça. Je crois toujours au délai qui existe entre l'apparence et la rémanence d'une chanson.
Une chose qui me frappe aussi, Charles-Élie Couture, avant qu'on revienne sur pas mal d'épisodes de l'histoire, Charles-Élie, c'est... Bah, c'est vrai que vous êtes un Français avant beaucoup d'autres très tourné vers l'Amérique, vers le rock, etc. Aujourd'hui, plein de chanteurs français chantent en anglais et vous gardez une sacrée attache quand même à la langue française.
Bah, paradoxalement, j'étais d'autant plus sur Island puisque j'ai
votre première grande maison de disques.
J'ai signé avec Chris Blackwell qui était le producteur de Bob Marley, Marianne Faithfull, Grace Jones, Robert Palmer, tous ces gens-là. Et ce qu'il appréciait justement, c'était mon phrasé français qui sonnait comme de l'anglais. Et est-ce que les Américains ont apprécié, c'est justement que la manière que j'ai de stancer, de poser les mots, la manière que j'ai de poser ma voix aussi, elle n'est pas à la française. Avec une
Parce que vous ajoutez de l'accent tonique qui n'existe pas dans la langue française, au fond.
Disons que le flow est quelque chose qui est apparu comme une évidence dès l'histoire du loup dans la bergerie. Derrière le parking qui est désert la nuit, à côté de la voie ferrée, dans une impasse étroite, il y a un petit bar, etc., etc. Et tous ces trucs-là, ça a donné... Alors, après, quand je chante à New York, c'est vrai que je chante plus de chansons en anglais.
Bien sûr.
C'est logique, parce qu'une chanson, c'est pas seulement des onomatopées, c'est pas seulement des sons.
C'est une histoire.
C'est une histoire. Et les gens aiment comprendre ce qu'on raconte. Donc, là-bas, je chante plutôt en anglais, mais ici, je me suis rendu compte, quand je fais plus de 2 chansons en anglais dans un spectacle, les gens, ils font la gueule. Tu vois, je peux rien. Et j'ai autant de plaisir, je t'avoue, à le faire en anglais, en français. Pourtant, c'est la musique, quoi.
Voilà. Mais aussi les paroles, on va le voir tout de suite, en commençant notre petit voyage dans le temps.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, la bouche usée par les baisers. Trop souvent, mais trop mal donné. Le teint blafard malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent, mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassurent.
Serge Reggiani, Sarah. C'est une chanson qui compte pour vous, Charlie Couture.
C'est fini de rigoler, là. Non, ça me... c'est toujours, toujours aussi fort. Je me revois à 7 ans, 8 ans, ne comprenant rien et comprenant tout, quoi. Tu vois...
C'est votre mère qui vous faisait écouter cette chanson, hein.
Ma mère, ma mère était plus mélomane, on va dire, que mon père.
Oui.
Mon père, c'était les arts visuels.
Ouais.
Ma mère, c'était les mots, quoi.
Ouais.
Jusqu'à la fin de sa vie, elle nous a corrigés quand on faisait des fautes de langage. Donc, on pouvait parler comme on voulait, mais du moment qu'on savait...
On parlait correctement.
Ouais, ou qu'on savait qu'on déconnait, quoi.
En tout cas, souvent, vous avez dit voilà que la chanson française à texte, c'était pas trop votre passion quand vous étiez jeune, mais que, voilà, Reggiani, cette chanson et quelques autres que votre mère vous a fait entendre vous ont quand même marqué.
Non,
quoi.
Non, mais là c'est... ce qui est intéressant avec ça, c'est que, tu vois, entre la gravité du sujet qui est évoqué là... tu dirais c'est pas une chanson pour enfants. Eh ben non,
enfant,
je suis désolé.
Enfant, c'était quelque chose. Qui parlait.
Franchement, je me revois exactement assis à côté du buffet où il y avait les disques étaient rangés, écoutant ça sur la chaîne Telefunken. Enfin, c'est ça le propre de la chanson, c'est d'être une inscription dans le temps, en fait.
Cela dit, vous avez aussi dit quelque part, alors soyons plus légers, que votre premier souvenir musical ou sonore, c'était un aspirateur.
Ah oui, alors ça c'est mais bien avant. Là, on est dans Schopenhauer et compagnie. Hein, on est dans John Cage. Mais effectivement, le premier souvenir de ma vie que j'ai, je me vois dans le berceau, frémissant de bonheur en entendant la soufflerie, le ronronnement, toutes les harmonies. C'est après que j'ai compris que c'est des harmoniques, mais d'un aspirateur.
Ouais.
Est-ce que ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un et tout ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que rien qu'en entendant un aspirateur, je me revois quasiment dans quelque chose, voilà,
d'indéfinissable.
Oui, c'est certainement pour ça que de la musique, j'en ai tout le temps en moi, mais tout le temps. C'est-à-dire que je conduise mon scoot, j'entends le bruit du moteur,
ah oui.
Ça se confond.
Mais c'est bien, vous disiez aussi les ventilateurs. amateur à New York et Dieu sait que ça fait du bruit. Il y a des gens comme moi qui supportent pas. Vous l'écoutez comme de la musique, c'est merveilleux.
Si tu l'entends comme de la musique, ça peut être très beau. Ouais.
Il y avait le côté de la mer, mais il y avait aussi le côté de la grand-mère. Évidemment, j'ai choisi Reggiani. J'aurais pu passer un petit morceau de Debussy, par exemple, pour évoquer ces années-là.
Oui, mais c'est pas la même chose. Ma grand-mère, c'était elle m'a permis de pénétrer la musique. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Ma mère l'écoutait. Et elle écoutait avec respect et intérêt, mais ma grand-mère, elle était la musique, quoi. Elle était dans la musique. Elle écoutait France Musique avec les partitions sur les genoux. Et elle tournait les pages au fur et à mesure et disait « Ah, tiens, il a changé un truc là. » Et derrière, il y avait une pleine armoire de partitions.
C'était une bonne pianiste ?
Pas mauvaise, mais je pense quand je l'ai connue, elle commençait à avoir de l'arthrose, mais elle avait été prof de piano. Mais justement, comme c'était une vraie musicienne, une vraie mélomane, elle acceptait que je joue avec la musique. Elle savait absolument pas improviser. Et du coup, elle était presque admirative que je me débine des partitions.
En tout cas, on l'a compris, on le sait d'ailleurs, Charles Lélicoteur, vous avez grandi vraiment dans une famille d'artistes, entre le côté...
Non, pas d'artistes, mais d'intellectuels intéressés par les choses de la culture.
Voilà.
Pas d'artistes, non. L'artiste, mon père d'ailleurs, était beaucoup plus quelqu'un qui était fervent défenseur de l'artisanat, c'est-à-dire du savoir-faire, de la maîtrise consciente de ce qu'on fait. Ma mère était une personne extrêmement cultivée qui lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Et ma grand-mère était la musique, etc. Mais c'était pas des créateurs, justement.
Non, bien sûr. Mais ils vous ont encouragé à le devenir et à l'être, en tout cas.
Je pouvais être ce que je voulais, du moment que je le faisais à fond.
Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'avec ces différentes approches, la musique, la littérature, votre père plutôt pour les arts visuels, c'est que vous avez très tôt décidé que vous seriez un artiste au sens complet du terme, et vous avez même passé votre thèse sur le thème de la polymorphie de l'esprit, c'est-à-dire que vous avez tout de suite voulu être, ce que vous dites aujourd'hui, un multiste plutôt qu'un artiste.
Oui.
Tourné à la fois vers les arts plastiques, vers la littérature et vers la chanson.
Ça, la thèse sur la polymorphie de l'esprit avait pour idée de dire, quand on parle de la personnalité de quelqu'un, on en parle toujours comme s'il s'agissait que d'une seule personne. Trouve ta personnalité. Alors, genre, tu cherches, il est peut-être planqué au fond d'un couloir ou ailleurs, etc. Alors qu'en fait, la personnalité, c'est une accumulation d'états d'être que j'ai souvent raconté. Non, on est blanc, on est noir, on est chaud, on est froid, on est dur, on est mou, on est tout ça en même temps. Et c'est cette espèce d'accumulation de comportements qui fait finalement la personnalité. Et dans un premier temps, je me suis efforcé d'essayer de repérer les différents êtres que je connaissais ou que je pouvais repérer de ma schizophrénie, quoi, si tu veux.
Mais là-dedans, il y a un peintre, il y a un musicien, il y a un écrivain, en tout cas.
Oui.
Un photographe.
Alors, à la différence de beaucoup de gens qui font ces mêmes quêtes d'eux-mêmes pendant une certaine période de leur vie, mais qui après cessent parce que contraints par les choses de l'existence, je me suis fait comme une obligation de continuer ce que j'avais commencé. Voilà. Ce qui fait que je m'apparente plus à un triathlète, si tu veux, qui se donne autant dans l'eau sur sa bicyclette ou quand il court, plutôt qu'un touche-à-tout frivole qui passe d'une chose à une autre comme un papillon qui volette. Non, je fais pas ça du tout. Je vais au bout de mon truc et si tu veux aller au bout de ton triathlon, t'es obligé de te donner à fond.
Ah ouais.
Tu vois?
Aller au bout de trois métiers à la fois, c'est beaucoup de travail.
Et même si, voilà, et le seul challenge, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis d'ailleurs parti à New York, parce que j'en avais marre d'entendre les gens qui considéraient mon travail de plasticien comme si c'était dilettante. Quand vous savez pas quoi faire, vous faites ça. Ah non, c'est pas ça du tout.
D'ailleurs, on y reviendra, mais j'invite les auditeurs à aller faire un tour sur charlélie.com. Il y a plein de très belles images, tableaux, etc.
Il y a des tas de choses à voir.
On va avancer un peu en musique avec un extrait du premier disque. Bon, une chanson que moi j'ai toujours bien aimée. Peut-être ça vous l'aimez pas beaucoup, les Anglais en vacances. Ça vous va?
Ah, si, vas-y. Amusons-nous.
Les Anglais en vacances ont la peau blanche sous leurs épaisses pattes rousses. Leurs épouses sont vieux jeux, elles ont l'air trop sages et malingres dans leurs lourdes jupes en laine peignée. droit sans mat. Les Anglais en vacances sont toujours gentils et polis, comme de grands adolescents pubères. Ils s'arrêtent toujours aux tables des petits restaurants de bord de route pour gronder leurs bébés assis en coin de table sur une chaise trop petite malgré le coussin en plastique. Les Anglais en vacances, d'une voix distinguée, toujours soprano. Entre leurs dents cariées par les bonbons, parle du gazon, du criquet et du temps. Ils se regardent et commandent le thé, mais ils se font ruger, car ils savent pas bien compter. Conduisent maladroitement, ils ont toujours peur des camions, des virages, des montagnes, des routes de France. Ils craignent pour leur moteur et leur peau d'échappement. Ils disent qu'ils n'ont pas de peau ici depuis Jeanne d'Arc. Les Anglais partent en vacances par couple, comme les autostoppeurs. Les Anglais dorment sur le bas-côté d'une chaussée, tranquille au bord d'une forêt. Les Anglais se font zigouiller par deux, comme les amoureux. Les Anglais meurent pour rien, les Anglais.
Vous avez dit un jour, Charlie Licouture, que c'était une chanson antiraciste parce qu'elle prouve qu'on peut se moquer de tout le monde.
Ouais, ouais. Alors, il y a plein de choses. D'abord, il faut préciser que cette version-là, j'étais encore et encore pour un an et demi aux Beaux-Arts quand j'ai enregistré ça. C'est une chanson qui est remplie d'ironie, un peu à la manière des chansons de Randy Newman et les chœurs cheap qu'il y a derrière. C'était
c'est la première version.
Ouais,
vraiment,
c'est ça. Voilà. C'était vraiment et c'est cette version qu'on a repris, réenregistrée sur le disque Pochette Surprise avec d'une manière un peu plus rigoureuse.
Et cette période des Beaux-Arts à Nancy, il faut dire, donc, votre adolescence et votre vie de jeune homme, on peut dire, eh bien, Charlie Couture, c'était aussi une vie de groupe, d'artistes, et il y avait des figure importante. Par exemple, je voudrais que vous nous disiez un mot de Pierre Eliane.
Ah, Pierre Eliane qui est devenu prêtre ensuite, qui était celui avec qui je me lançais des défis poétiques, on se lançait des thématiques, et puis on devait la semaine suivante revenir avec des chansons. Mais lui, il était plus Cohen quand j'étais plus Dylan. Il faisait sonner les mots d'une certaine manière.
Il parle souvent dans ses chansons d'ailleurs, autant qu'il chante.
Oui, voilà, il avait une approche un peu mystique, on va dire, et la preuve, après, il est devenu prêtre, je crois qu'il est à Toulouse maintenant, et il est toujours de même. Moi, j'étais artiste et je le suis toujours.
Voilà, non, mais c'est beau, ces bandes de jeunesse comme
avait,
ça.
Il y avait aussi Rémi Malingré, on était une dizaine dans un groupe que j'avais monté qui s'appelait Local à louer, dont Tom aussi, mon frère.
À l'époque, cela dit, apparemment, vous disiez surtout que vous vouliez devenir metteur en scène. Vous n'avez pas réussi dans ce sens-là vraiment votre carrière, puisque c'était votre ambition et c'est peut-être ce que vous avez le moins fait de tous les métiers.
Oui, oui et non. En fait, c'est pas tout à fait ça. Je suis entré aux Beaux-Arts effectivement pour être metteur en scène. J'avais été fasciné par les réalisations d'Eisenstein, par exemple, et notamment les dessins qu'il avait faits. Et en très peu de traits de crayon, il arrivait à résumer ce qu'il voulait voir à l'écran. Et je me disais, je veux gérer, peut-être qu'il faut que je sache dessiner. Donc je suis entré aux Beaux-Arts dans l'idée que la mise en scène me permettrait fait à la fois de développer l'écriture, le son et l'image. Et puis j'ai appris des choses aux Beaux-Arts qui ont fait que j'ai eu envie, comme je le disais tout à l'heure, de faire des expositions de groupe à moi tout seul, entre guillemets. Quoi.
Ce qui est drôle aussi, parce qu'on n'attend pas forcément quand on lit votre parcours, c'est qu'il y a un personnage qui a joué quand même finalement un rôle important, c'est Coluche.
Ah ben ça a été le moment où j'allais dire où je suis monté à Paris. Quoi,
voilà, en gros, parce qu'on doit monter à Paris quand on est né oui, à Nancy ou dans une autre ville de France. Oui. À un moment donné, on monte à Paris.
C'est ça, on prend la RN4, c'est en latitude, mais j'ai effectivement le fait que de passer au Café de la Gare après son spectacle. À ce moment-là, il jouait inspecteur de la bavure, donc il restait une heure et quart en scène. Et il m'a confié le Café de la Gare après son spectacle pendant un mois, et c'est là que s'est trouvé Jean-Henri Meunier qui a entendu ça, qui a fait la jonction avec Chris Blackwell, etc. Et je suis resté en bon terme avec Coluche et avec Véronique d'ailleurs.
D'ailleurs, vous avez fait la musique de Ciao Pantin quelques années plus tard.
C'est ça, tout à fait, oui. Ouais. Enfin, c'est une parmi les 23 musiques de films que j'ai faites. Et celle-là était une musique de référence. Ouais.
Alors avec Chris Blackwell, on sait vous êtes devenu un chanteur célèbre. Il y a eu notamment
Poème Rock
qui a été un disque qui a eu un très grand succès. Bon, évidemment, peut-être on écoutera tout à l'heure comme un avion sans aile. Mais ce qui est important, c'est qu'en même temps, j'ai l'impression que très vite vous avez eu ce besoin de vous renouveler vraiment d'un album à l'autre, toujours essayer autre chose.
Ben, c'était ma grave erreur, si je puis dire, commercialement parlant, parce que quand les gens aimaient bien un truc, j'essayais d'aller voir ailleurs si j'y étais, jusqu'à arriver à New York, où là, petit à petit, ça s'est recentré et c'est devenu plus repérable, si je
puis dire. Vous aviez peur de devenir le Brassens de la jeune génération.
Non, mais c'est comment ? En fait, j'avais tellement rien à faire de rien. J'ai ce côté punk, et comme je disais tout
c'est
à l'heure,
génération,
je voulais être metteur en scène, donc ça me gênait pas que la chanson soit seulement une période de ma vie. D'ailleurs, j'ai dit assez jeune, à 35 ans, je ne serai plus chanteur. Je voulais dire par là, pas que j'arrêterai de chanter, mais que je ne serai plus considéré comme un chanteur. Et de fait, je n'ai plus été considéré du tout. Donc, c'est pas grave. J'ai continué, malgré tout, à faire ce que j'avais à faire.
En tout cas, c'est ce qui compte. Vous m'avez fait vraiment plaisir quand on a préparé l'émission, parce que vous avez choisi, et c'est rare dans cette émission, on parle beaucoup de chansons, une musique de celui que je considère comme le plus grand compositeur vivant, Monsieur Steve Reich.
Ah oui.
Vous l'écoutez souvent ?
Ça fait partie des musiques que j'écoute quand je peins, oui, bien sûr. Oui. C'est la musique Desert Music ?
Oui.
Ah ouais, super, c'est magnifique. Thank you.
C'est vrai, vous avez raison, Charles-Élie, j'ai remarqué que les dessinateurs, les peintres écoutent beaucoup de musique quand ils travaillent.
C'est, oui, mais là, on est dans l'énergie pure, quoi. Que ce soit Philip Glass avec Creon is Conci, par exemple, ou Brian Eno dans la musique for movies, par
bien
exemple,
sûr, ouais.
ces choses-là, ça te détache du temps réel, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et du coup, tu deviens entouré d'une espèce d'espace... qui est l'espace du monde, quoi. C'est ça la beauté de la musique. Et ce que j'aime bien dans ces musiques entre guillemets abstraites, c'est que elle laisse un champ à l'imagination qui fait que tu gagnes en liberté, quoi. Dans mon atelier à New York, enfin dans mes ateliers, j'ai toujours écouté la musique presque pas fort, et puis de façon à ce que souvent elle se fonde ou elle se confonde avec les bruits de l'extérieur, mais qui deviennent des instruments, quoi, et que ce soit une sirène, que ce soit un moteur qui passe, un bus ou je sais pas quoi, ou un frigo qui ronronne, c'est ça la musique des villes, quoi.
New York, ça a donc été évidemment un pôle. Il y a eu d'autres voyages qui ont été marquants pour vous après vos premiers succès, une tournée en Asie, des séjours en Australie, ça a été des choses marquantes.
Oui, pas mal, oui. Aussi une tournée dans les pays de l'Est, une tournée en Afrique aussi que j'ai fait. Tous ces moments-là qui sont pas forcément lucratifs, mais qui sont extrêmement enrichissants à l'intérieur.
Ouais.
Parce que tout d'un coup, on se met à se percevoir soi-même sur d'autres références. Bon, c'est la palissade de dire que les voyages forment, mais pas que la jeunesse. Les voyages, ça donne du relief à sa propre vie, quoi. Et j'ai eu la chance de le faire à un moment donné où je me réjouissais de tout, découvrir le monde moi-même en même temps, enfin, bon, etc.
Et qu'est-ce que vous pensez de la notion, vous qui êtes né à Nancy, de provincial?
C'est ce que je suis obligé d'admettre quand je suis vraiment face à des vrais Parisiens cyniques à souhait, qui ont une sorte de détachement face au réel, qui est que je dis pas qu'ils sont blasés, mais ils ont toujours peur d'y croire, alors parce que il y a toujours quelque chose d'autre à côté, et que s'enthousiasmer, ça paraît presque de la naïveté. Et quand j'arrive avec mon espèce de spontanéité, que dans un premier temps il traite ça avec ironie condescendante, etc., parce que ce con là il y croit encore, et alors que dans un premier, enfin ça a changé bien sûr,
bien sûr, hein,
et c'est pas tout le temps
c'est
comme ça,
parce que...
mais disons effectivement quand je suis arrivé avec mon espèce de naïveté bébête de dire ce qui est, etc., sans tenir compte de la vie d'autrui, j'ai eu en face de moi quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Maintenant j'ai compris, ça y est, je filtre, etc.
En même temps, il y en a beaucoup de vrais Parisiens qui pourraient envier votre vie qui va bien au-delà des frontières de notre hexagone.
C'est vrai que en plus, quand je suis parti pendant 15 ans à New York, j'ai rencontré des gens qui étaient là-bas, des Français qui étaient là-bas, et les castes, si je puis dire, dans lesquelles en France, chacun se range soi-même, que ce soit lié à l'origine territoriale ou à l'activité professionnelle, qui va faire que les gens d'affaires vont être avec les gens d'affaires, les artistes vont être avec les artistes, les sportifs avec les sportifs, les commerciaux avec les commerciaux, ben là-bas, tout ça était mêlé dans le fait qu'on était tous d'abord français. Ça m'a permis de comprendre, voire même me comprendre. Et là, il n'y était plus d'histoire de province ou de Paris ou de ci ou ça. Et c'était vachement instructif. Ouais.
Un de vos moteurs, je crois, ça a toujours été aussi donc le désir, on disait, de raconter des histoires. Et c'est vrai que d'un disque à l'autre, vous avez fait souvent de vos disques des projets, un peu plus qu'une suite de morceaux. C'est même assez construit sur parfois plusieurs albums. Il y a eu Solo Boys, il y a eu ensuite Solo Girls, etc.
Et le premier disque australien, le deuxième disque australien. Oui. Effectivement, j'ai souvent considéré un disque comme une œuvre à part entière. C'est-à-dire, chaque chanson c'était un chapitre, mais que le disque était une entité à part entière, comme si c'était un étage avec différents...
bien sûr. Mais c'est un concept qui garde sa véracité au temps d'Internet avec ce flux de musique. Évidemment, on fait toujours des disques et des albums et c'est ça qu'on aime, mais est-ce que pour un public qui va s'alimenter sur le réseau, ça veut dire encore quelque chose en album?
Non, ça a quasiment plus de sens. Aujourd'hui, on n'enregistre plus un album, on enregistre une playlist.
Voilà, c'est
ça. En fait, et plus on a d'histoires derrière soi, en plus le public il souhaite que réentendre ce qu'il a aimé. Ouais. Alors ça laisse pas un champ d'ouverture très grand pour la nouveauté. Malgré tout, le même Pas Sommeil dont on a entendu un extrait tout à l'heure a l'air
d'exister comme album.
Oui, à part entière. Donc c'est plutôt bien pour moi.
Il y a quelques années, en 94, un disque assez singulier justement que j'aime beaucoup. On va écouter Jacobi Marché. C'était dans l'album Les Naïves. Ouais. Juste un mot de cette idée des Naïves.
Les Naïves, c'était les anges en fait. C'était de trouver la jonction entre le moment où on passe de la vie spirituelle à la vie matérielle, c'est ce qui anime tout l'album. C'est un disque un peu mystique entre guillemets, tout en sachant que le mot naïf vient de nouveau et que donc sans une certaine forme de naïveté, il n'y a aucune manière d'appréhender la nouveauté.
Jacobi avait dit, c'est fini, j'en ai marre, mercredi je pars. Dans le ciel indécis flottaient de gros nuages gris, pourtant Jacobi est parti marcher. De midi à minuit, marcher, à tout jamais, marcher. Jacobi marchait. Les premières gouttes sont tombées sur la route, et puis la pluie a redoublé. Coûte que coûte, Jacobi continuait pas à pas à avancer. Du nord à l'est, du sud à l'ouest, Jacobi cherchait au paradis un coin à l'abri avec un lit, un bol de riz. Jacobi disait, ça me suffit, marcher. À minuit, marcher, à tout jamais, marcher, Jacobi marchait. Un jour il a changé d'avis. Peut-être qu'il avait compris, ou bien il n'en pouvait plus. Jacobi est revenu, il a appelé Ellie, son meilleur ami, à qui il a dit, j'entendais une sonnerie qui faisait battre mon cœur à l'infini. C'était vraiment très fort, je devais dire oui, pourtant je me demande encore ce qui m'a pris marcher. De midi à minuit, marcher, à tout jamais, marcher, Jacobi marchait. Yeah.
Charles Élie Couture, en 1994, l'album ouais, Naïve.
Rester en mouvement, rester en mouvement. Et quand je dis qu'il faut marcher, c'est pas forcément en marche. Hein.
Ah oui,
précise,
d'accord.
Pour qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait pas de lézard.
En d'accord, même c'était temps pas que... un message subliminal pour non, les futures élections.
Anticipé. Non, mais l'idée, c'était un chemin.
J'aimais... Mais on disait, en tout cas, c'est un disque qui a une fraîcheur aussi, qui fait qu'il a touché peut-être aussi un public aussi bien de gens très jeunes que de votre public habituel, etc.
Je voulais que mes enfants, à ce moment-là, puissent l'écouter. D'ailleurs, dans une des chansons, une de mes filles, Shan, qui est maintenant réalisatrice, chante une chanson. La 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 la, la 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 la, le progrès. Bon, etc.
Je parlais d'Internet, vous avez été aussi un des premiers à vraiment miser, j'ai envie de dire, comme artiste, peut-être justement pour faire connaître la diversité de vos activités sur la possibilité de créer un site, de donner des images, de donner du son, de donner des vidéos, etc.
Mais l'artiste italien qui s'appelle Mario Salis et qui a inventé le terme de multiste que j'ai repris, était celui qui m'a donné la possibilité de montrer à la fois ce que je faisais dans l'écriture, dans la musique et dans le son, en montant mon premier site internet. Et du coup, il se trouve que c'était à la naissance d'internet, c'était dans les années 95-96, ouais, ou même peut-être même encore un poil avant. Et du coup, j'avais pu à me trimballer avec des cahiers à dessin pour montrer aux gens ce que je menais en parallèle. Non, c'est internet, c'était incroyablement excitant quand c'est arrivé.
Mais vous vous en occupez vous-même aussi beaucoup de votre... ce site aujourd'hui, ouais.
Ah, pas tant le site que j'entretiens et ce que je fais régulièrement, c'est ma page Facebook maintenant. Le site, il bouge en fonction des choses qu'on a à montrer, mais...
Voilà. Alors, il y a un tournant quand même dans les années 2000, on a l'impression, qui s'est produit, qui est peut-être lié aussi à la disparition de votre père et puis à une polémique à Amiens. Vous aviez tout un projet architectural, pour le coup, pour la drague, je crois, d'Amiens, puisque vous avez toujours été aussi passionné, on le sait, par cette forme de création que par la musique. Oui. Et vous aviez même remporté toutes les étapes du concours, je crois. Oui. Et puis quand ils se sont aperçus que c'était Charles Élie Couture, le célèbre chanteur, ils ont décidé de vous éliminer de la liste.
Oui, ça a été un peu plus subtil que ça, mais disons qu'à l'instant où... Alors que jusque-là, j'avais passé les différentes épreuves de ce concours qui suggérait de moderniser l'endroit... Je suis arrivé, la porte s'est ouverte et on m'a dit « Ah, mais la musique, c'est la pièce à côté. »
C'est ça, voilà.
Attendez, c'est mon dossier que vous avez devant les yeux. « Ah non, ici, c'est les arts plastiques. » Ah oui, ben c'est mon dossier. Mais vous n'êtes pas chanteur, etc., etc. Jusqu'à ce que
c'était la négation de tout ce que vous avez toujours essayé de faire.
Essayé de faire. Et puis là, il y a une fille du ministère de la Culture qui dit comme ça, en faisant une blague, cantonade, l'ensemble. De toute façon, si vous étiez artiste, ça se saurait. Qu'est-ce que je vous disais à ça?
Ouais.
C'était ça, ça a été.
C'est pour ça que vous avez quitté la France?
Oui. Ouais. Je suis rentré. Ma femme a dit ça va pas ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je dis écoute, on s'en va. C'est ostracisme là. C'est-à-dire, c'est pas sur mon travail que je suis jugé, mais sur ce que je suis.
Ouais.
Donc même quand je gagne, je perds et je peux pas me défendre. Là, il y a un moment donné, ça va trop loin. Donc si je veux savoir, j'en veux même pas. Au contraire, je suis très reconnaissant à cette personne d'avoir fait suffisamment mal pour qu'elle me mette en face d'une évidence. Et sans elle, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Mais par contre, la mise en route de ce changement d'existence, c'était quelque chose de difficile à mettre en route. Voilà. C'était...
Mais, enfin, résultat, aujourd'hui, vous êtes franco-américain, il faut dire. Hein.
Tout à fait. Ouais. Je suis très content d'avoir vécu ce que j'ai vécu, d'avoir eu ma galerie pendant 5 ans.
36e rue Ouest.
C'est ça, entre la 8e et 9th Avenue.
Ouais.
Et c'était un endroit qui m'a permis de rencontrer le monde, en fait, finalement, les pieds dans la boue, avec mes deux vitrines qui faisaient que rentraient toutes sortes de gens. J'ai eu un échange avec le monde que j'aurais jamais eu. En plus, c'était à New York, donc ce qui voulait dire des gens venus de la terre entière.
Vous avez une phrase terrible pour comparer les Français et les Américains, ou plutôt la France et les États-Unis.
Je dis souvent voilà. À New York, on vit mal, mais on s'y mais sent, on bien. Sent bien. En France, on vit bien, mais on s'y sent mal.
Ça vous apparaît un peu comme ça, de votre expérience,
oui. Ouais, parce que franchement, la France, c'est quand même, en termes de confort social, malgré tout.
Malgré tout, et pas pour tout le monde, bien sûr, mais quand même, oui.
Évidemment, un pays dans lequel on se régale de subtilité, alors que les États-Unis ne veulent pas fonctionner sur le principe du subtil. Les choses doivent être affirmées pour ce qu'elles sont. Blanc, noir, chaud, froid. Bon, ma peinture est une peinture new-yorkaise et une peinture noir et blanc. Parce que tu peux être ce que tu veux là-bas, du moment que tu l'affirmes. Ce qu'ils aiment pas, justement, c'est ce qu'ils appellent les yes-buts. Alors les yes-buts, putain, c'est le genre de mec sur qui tu peux pas compter. Alors qu'en France, on se régale, justement, de cette intelligence de l'antithèse qui fait que oui, mais il y a toujours un truc qui effectivement l'empêche d'atteindre à l'universel. La France est un pays d'absolu. Les choses, elles sont soit absolues, soit pas du tout. Ouais, mais bon, du coup, t'es toujours perpétuellement insatisfait, puisque l'absolu, tu la tiens que très, 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 très rarement.
Alors, dans la production musical hein, de Charles Ely à New York, il y a aussi pas mal de choses, notamment avec le groupe The Dining Rooms.
Ah oui, j'avais fait ça.
C'était bien,
j'avais
ça, enregistré Exit in New York.
C'est ça, j'avais écrit le texte sur leur musique. C'est des Italiens, eux, au départ. Hein, disons que New York, encore une fois, m'a incité à faire des tas de sortes d'expériences et de trucs. Ouais. Comme j'avais absolument plus de références, de rien, du coup, j'ai été jouer dans les clubs, je me suis retrouvé à Central Park.
On rajeunit comme ça, on recommence tout.
Ah ouais, c'est super excitant. C'est ça qui est agréable. Oser à 47 ans recommencer sa vie à zéro, tu vois. C'est un luxe.
Et Ingram Marshall, c'est une rencontre new-yorkaise ?
Non, mais Alcatraz, oui. Quand j'ai visité la prison d'Alcatraz, j'ai vécu un des moments les plus immenses. C'est sur la côte ouest, hein, bien
oui,
sûr,
pour le coup,
à côté de San Francisco. Et j'ai réentendu cette musique d'Ingram Marshall, qui était une musique de courant d'air typique, de bruit, de porte qui se.
C'est un New-Yorkais, lui, hein.
Je crois, oui. Ouais. Mais je trouve que cette composition Alcatraz est absolument très cinématographique à la fois. Je sais pas, c'est le pouvoir de la musique suggestive, quoi.
Mais on est encore toujours dans ces musiques, je dirais, un peu envoûtantes, fondées sur la répétition, un peu comme Steve Reich. Vous aimez ça vraiment, hein?
D'une manière personnelle, je trouve que c'est ce qui fait que la musique est une drogue. C'est-à-dire que elle va changer ta perception du réel. Et donc du coup, selon que tu entends ça ou selon que tu entends ça, l'endroit va ressembler à ci ou ressembler à ça.
Thank you.
Alcatraz, Ingram Marshall.
C'est, une longue composition. Il se passe plein de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup de solitude. Et quand j'ai visité cette prison, il faut savoir que depuis la prison, on entend les bruits de San Francisco. Imaginez ce que ces gens, ces prisonniers, dans des cellules quand même extrêmement petites, pouvaient vivre et ressentir le froid, être dans l'endroit réel, pas un endroit reconstitué, mais dans l'endroit tel. C'est une expérience de vie importante. Ouais.
J'aime bien aussi la façon d'utiliser le silence, c'est les longues résonances. Il n'a pas peur du silence, on dirait.
En dehors du temps. Parce que c'est totalement arythmique.
À propos d'art et d'Amérique aussi, une chose qui vous avait frappé, je crois, c'était quand le violoniste, le grand violoniste Joshua Bell, oui, a joué dans le métro à Washington.
Ah oui, c'était très intéressant ça. C'est signifiait que, en fait, on n'est pas considéré pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on représente.
Voilà. Donc le grand virtuose star du milieu classique qui descend dans le métro de façon incognito, personne ne s'arrête.
Et qui, le matin, joue les quatre saisons de Vivaldi sur son Stradivarius. Il gagne $75 de pourliche, alors que le premier prix du billet au Boston Opera où il jouait le lendemain, c'était 120 balles, je crois. Donc mais dans le métro, comme il était hors du contexte, c'est comme ce qui s'est passé avec Banksy quand il a présenté des toiles dans la rue, voilà, et que ça valait 70 balles. Et je suis passé devant pour te dire, et je les ai pas vus, quoi.
Voilà. Une autre expérience, évidemment américaine, plus personnelle et plus marquante, c'est l'album Lafayette, donc en 2016, en Louisiane.
Ah, l'avant-dernier album, oui.
Ouais, ouais.
Oui, c'était une manière pour moi de célébrer ma mère, en fait, et de faire la jonction entre cette culture anglo-américaine et française qui avait été la mienne.
Voilà, à travers la Louisiane, évidemment.
Voilà, c'est ça qui était... puisque la ville de Lafayette, c'est la ville la plus cajun, on va dire, de Louisiane. New Orleans est la ville la plus créole, on va dire. Hein. Puis Baton Rouge et Lafayette, qui est le dernière poche francophone, on va dire, au milieu du grand océan anglophone.
Et donc hommage à votre mère qui elle-même avait vécu aux États-Unis et qui vous avait donné cet amour aussi de l'Amérique, mais ici.
Oui, parce que quand elle revenait, on parlait souvent en anglais ensemble, et c'est ce qui m'a donné le sentiment que l'anglais était un peu ma langue maternelle entre guillemets, quoi.
Un jour les anges en ont marre qu'on reste sourd à leur mission. Alors avant qu'il soit trop tard, les anges blessés s'envoleront au même signal d'une sentinelle dans un même battement d'aile. Un jour, tous les anges rebelles rejoindront la vie éternelle. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà, lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. Un jour les anges en ont marre de se faire avoir, perdre leurs plumes, sans crier gare, sans faire de bruit, ils s'éclipseront dans la brume. Mais quand les anges disparaîtront, faudra faire sans leur protection. Qui donc y fera attention? Peut comprendre. prend pour un gang de pigeons. Ouais, un gang de pigeons. Cherche ce jour-là, vers l'au-delà, lève les yeux. Si tu cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux quand on reste trop silencieux. C'est même plus dire adieu.
Un jour les anges, extrait de Lafayette, donc avant-dernier album de Charles-Élie Couture que je reçois ce matin pour la parution de son nouvel album. Il s'est quand même passé un gros changement entre temps, c'est qu'après les années new-yorkaises, finalement vous êtes un peu revenu en France.
Oui. Disons que j'ai inversé les proportions. Au lieu d'être basé à New York à plein temps et de venir en France quand j'ai des trucs à y faire, c'est l'inverse. Maintenant je suis ici et une chose en amène une autre.
Et pourquoi ce changement?
Le
contexte a changé là-bas aussi et vous a donné envie de repartir?
Il y a deux choses. Il y a eu l'élection de l'autre infâme qui ne correspond en rien aux valeurs qui sont celles que j'accordais à l'Amérique. Et puis dans un autre sens, d'une manière plus personnelle, j'arrive à un moment donné où j'ai le sentiment que j'ai un certain nombre de choses à transmettre que peut-être on peut entendre d'une manière plus légitime maintenant qu'on sait que j'ai vécu ce que j'ai vécu en amont. Voilà.
Alors là, on est vraiment en plein dans le style Charles-Élie, puisqu'on a à la fois un livre, un album, une exposition, tout ça qui sort à peu près en même temps.
Oui, absolument.
Et notamment ces 50 poèmes inchantables intitulés La mécanique du ciel au castor astral. Très joli livre, on peut dire. Un choix de texte de toute votre vie, hein. Ils sont datés, donc on voit que ça recouvre des époques très très différentes. Et puis des styles très différents, de la poésie, de la prose, des souvenirs, des vrais souvenirs, des faux souvenirs peut-être aussi.
Mais absolument, c'est le fait que je voulais, par ce livre-là, faire savoir que l'écriture, en ce qui me concerne, et la poésie, puisqu'on parle de ce mot-là, c'est un mot qui fait peur. Hein. Ouais. Tu dis, pendant longtemps, j'ai essayé de faire publier ce truc-là, et dès qu'il s'agissait de poèmes, les éditeurs se mettaient à trembler. Le livre a déjà du mal aujourd'hui, alors vous savez, la poésie, ça emmerde tout le monde, les gens ont peur. Faites-nous un roman, Charles-Élie. Et puis je disais, non, écoutez, moi je pense que la poésie, c'est de l'énergie pure, quoi. C'est en grec, poéine, ça veut dire faire, agir, ça veut pas dire contemplatif,
rêvasser
et gnangnan. Et non, qu'on soit à fleur de peau et sensible à des choses, oui, ben c'est le propre de tous les hypersensibles, que certains choisissent de le formuler avec des mots, pourquoi pas. Mais ce qui est certain, c'est que un livre comme le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa m'a accompagné, moi, pendant des années, et me filait la pêche. Et encore une fois, la création, c'est de l'énergie, parce qu'on sait, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Après, ce qu'on en fait, ça, c'est un autre sujet, quoi.
En tout cas, ça sort aujourd'hui au Castor Astral, et c'est vraiment un livre qu'on lit pour le plaisir, peut-être même dans le désordre aussi.
Absolument.
Ça vous dérange pas?
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas du tout organisé. Ouais. Les premiers poèmes en premier, les derniers. Non, c'est une espèce de, comme ça, de promenade. Encore une fois, c'est un florilège, hein. C'est-à-dire qu'il y en a des centaines et des centaines d'autres à côté, hein. C'est pas les meilleurs ni rien du tout. Ça a été choisi d'une manière un peu aléatoire, mais j'assume pleinement, quoi.
Et puis donc en même temps, ce nouvel album, même pas sommeil. On a écouté tout à l'heure la chanson titre. On va écouter peut-être la première chanson. Vous l'aimez particulièrement, les chevaux froids. Vous nous avez dit un mot
si
tout à
veux,
l'heure.
Volontiers, les chevaux froids, c'est une chanson sur, disons, sur presque la dignité de l'homme. T'as ces chevaux qui rêvent de s'échapper de leur condition. Et puis dans le refrain, ça dit ouais, mais est-ce que ça a de l'importance? Non, peut-être pas d'importance, mais si ça a pas d'importance. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'importance? C'est quoi l'importance?
Dans les prés, sous les arbres, quand la brume se lève, les chevaux froids s'élancent pour prendre la relève. Réfugiés politiques, ils continuent d'y croire. Insoumis, restés dignes, ils serrent les mâchoires. Les immeubles éventrés pendant la guerre civile, les vétérans blessés relisent les évangiles. Derrière les barbelés, on entend les coups de feu. Quel que soit leur métier, y a des mecs trop nerveux. Allez, ça va, je sais bien ce que tu penses. N'écoute pas ce que je dis, laisse faire le silence. Ouais, de toute façon, ça n'a pas d'importance. La jument s'est blessée, elle a une patte cassée. On peut plus rien pour elle, il faudrait l'achever. On appelle le veto, il met du temps à venir. L'aube ne sera bientôt qu'un simple souvenir. Allez, ça va, je sais bien ce que tu penses. N'écoute pas ce que je dis, laisse faire le silence. Ouais, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Les foules fébriles attendent un jugement. Les enfants veulent se battre armés jusqu'aux dents. Les poulains orphelins hennissent de terreur. On entend au loin le camion de l'écarisseur. Un blanc s'énerve dans le parc à côté. Il cogne fort son sabot sur le sol gelé. Les hurlings agités désarçonnent leur jockey. Et le bel étalon s'échappe dans la vallée. Allez, ça va, je sais bien ce que tu penses. N'écoute pas ce que je dis, laisse faire le silence. Ouais, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de l'importance? Ouais. Quelle importance?
Les chevaux froids, c'est sur le nouvel album de Charlie Couture, avec d'ailleurs une superbe photo de chevaux au dos de la pochette.
Au dos et sur la face, une magnifique photo de Vincent Munier, ouais, qui représente un gypaète barbu, qui est un vautour, non pas un aigle, mais un vautour.
Voilà.
Voilà. Alors et ça, cette chanson sera celle qui ouvrira le spectacle avec lequel on va partir en tournée.
Voilà.
Qui mettra à Paris au Trianon le 12 avril, d'après ce que souvenir.
Voilà le grand retour parisien de Charles Ely, avec en même temps ce livre qui sort, La mécanique du ciel. Et puis aussi, tiens, vous qui n'êtes pas fou de Brassens, vous vous retrouvez quand même au musée de Sète.
Ah oui, ouais, une belle exposition et très bien mise en scène.
Des tableaux new-yorkais plutôt, on peut dire. Hein.
De la période new-yorkaise, voilà. Sur le thème du passage, c'est-à-dire la transmission autant que le passage dans le sens large du terme.
Voilà, alors ça c'est une exposition qui vient de commencer.
Oui, absolument, jusqu'au 28 avril.
Découvrir jusqu'au 28 avril à Sète, voilà, tous les aspects de Charles Ely.
Ça s'aligne, il se trouve que, hein, parce que ça n'a pas du tout été conçu aux mêmes périodes, mais ça aboutit en même temps. Voilà.
Tiens, plus le site. Et alors la question, tiens, on est toujours obligé de passer par là avec les artistes qui ont fait des grands tubes comme vous, entre autres. C'est quoi votre rapport, par exemple, à une chanson dont on doit vous rebattre les oreilles comme un avion sans ailes?
Si c'est comme si j'avais, arrivant à la table de poker, sorti un poker de roi, on va dire, ce qui fait que ça a justifié que je sois toujours à la table, même si après j'ai surtout sorti des quintes, des tierces et des petites mains, mais là j'ai eu cette grosse main.
Donc c'est
fois.
Plutôt bien.
Ça a changé ma vie de toute façon inexorablement et j'ai un bon rapport avec la chanson.
L'a réclamé, hein, on m'a dit, tu peux pas me pas la passer.
Oui, écoute, c'est bon. Aujourd'hui, c'est pas vraiment l'arbre qui cache la forêt. La forêt a quand même poussé tout
bien
autour.
Bien poussé depuis, c'est
mais
vrai.
Mais on connaît le chêne de référence. Voilà, c'est le chêne royal.
Alors merci, on se quitte avec cette chanson. Et j'étais content d'être avec vous sur France Musique matin, Charles-Louis Couture. À bientôt.
Volontiers, salut.
Chanter toute la nuit.
comme un avion sans ailes par mon invité Charles-Élie Couture. Et donc vous pouvez lire de Charles-Élie Couture La mécanique du ciel qui vient de paraître au Castor Astral. Vous pouvez aller voir l'exposition qui se tient jusqu'au 28 avril au musée Paul Valéry de Sète. Et bien sûr, écouter le nouvel album Même pas sommeil. Orchestre de David Rose en 1954 dans une composition du français Faustin Jean-Jean, Les violons s'amusent.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis avant de nous quitter pour répondre à la demande de certains auditeurs qui se sont manifestés à la suite de la triste disparition de Jean-Christophe Benoît, j'ai retrouvé encore une petite plage de Jean-Christophe Benoît dans un rôle d'opérette ici en duo avec André Aguillot, c'est bien sûr La Veuve Joyeuse.
casse-cœur, à casse-cou.
L'heure exquise, chantée par Andrea Guyot avec Jean-Christophe Benoît, un enregistrement 33 tours du Club National du Disque. On parle beaucoup des Kurdes pour des raisons pas forcément toujours joyeuses en ce moment. Alors moi, j'adore cette danse des jeunes Kurdes, extraite du ballet Gaynae de Khatchaturian. Là, c'était l'Orchestre Royal Philharmonique sous la direction de Yuri Temirkanov. Et puis, on va terminer l'émission avec Reynaldo Hahn. Je vous avais passé un extrait de son opérette Malvina il y a 15 jours et à la demande générale, j'en ai ressorti un autre. C'est le final du dernier acte, chanté par Lina Dachary et Jacques Janssen.
Tu m'aimes, elle m'aime. Bonheur suprême, dans le septième ciel, nous planons.
Je t'aime,
tu m'aimes, elle m'aime. Merveilleux thème, divin poème, nous aimons.
Tous ces petits sont gentils, tous ces amants sont charmants, ils s'aiment.
Ma bien-aimée, ce fut par un bon soir de mai que je t'ai fait.
Et pour bonheur, que nos cœurs étaient alarmés.
Tout nous disait, aimer.
Allons baiser, unis.
Une opérette que devraient reprendre tous les théâtres lyriques dignes de ce nom, Malvina, Reynaldo Hahn, c'était en 1935, ici chanté par Lina Dachary et Jacques Janssen, sous la direction de Jean-Paul Kreider. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Olivier Dupré, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, ce sera un spécial Adolphe Adam à l'occasion de la production du Postillon de Longjumeau à l'Opéra Comique. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. France Musique, où vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.